Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h. On est avec Rémi Barré, avec le journaliste Thierry Moreau, l'ancienne avocate et présidente de l'association Femmes et Libres, Yaël Mellul, et le chef du service culture, de Valeurs Actuelles, Laurent Dandrieux. On est avec vous également au 32-16 pour réagir à notre dernier débat. Travailler en famille avec son conjoint, son frère ou encore ses enfants, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer des messages sur l'appli RMC pour nous faire part de votre expérience. C'est pas toujours réussi, mais ça peut l'être. En tout cas, continuez à nous appeler et à nous écrire. Il y aura également RMC s'engage pour vous vers 14h30 avec l'histoire de Pascal. On va tenter de l'aider, hein, Pascal, parce qu'il a commandé une voiture chez Citroën. On ne lui a jamais livré, mais on lui réclame quand même 10 000 euros, ce qui fait bien sûr un petit peu beaucoup quand surtout on n'a pas sa voiture. Donc on essaiera de l'aider et puis on terminera avec les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, Rémi.
Oui, et on parlera notamment d'un nouveau record pour Kylian Mbappé ou encore de la colère de Valérie Pécresse contre Louis Boyard, le député LFI.
Oui.
RMC Estelle Midi.
Et on va s'intéresser tout de suite aux chiffres du jour. Dans Estelle Midi, 83% des sociétés en France sont des entreprises familiales, que ce soit dans des petits commerces ou des grandes sociétés. De nombreux Français ont fait le choix de s'associer avec leur famille, avec leurs conjoints, leurs frères et sœurs, ou encore de travailler sous les ordres de leurs parents. Mais Rémi, ce n'est pas toujours facile.
Non, alors il y a peu de chiffres précis sur le sujet. D'ailleurs, peu d'études, tellement les profils d'entreprises familiales sont variés. Tu l'as dit, ce qu'on sait, c'est que ces entreprises familiales représentent 83% des PME et des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. C'est un emploi sur deux en France dans un contexte d'entreprise familiale. Alors cela va du petit commerce, tu l'as dit, ou aux grands groupes comme Bonduelle ou encore Lactalis, pour n'en citer que ceux-là. Un énorme tissu économique donc, et pourtant en France, il n'est pas simple de passer le flambeau à un membre de sa famille. Seuls 14% des entreprises familiales sont reprises par la génération suivante. À titre comparatif, c'est 51% en Allemagne et même 70% en Italie. Ah oui. Pourquoi ? On a une spécialité en France. Allez, je taquine un peu. Les impôts. Il faut s'acquitter des droits de mutation qui s'élèvent à 45% de la valeur de l'entreprise chez nous. En Allemagne, ils vont, ces droits de mutation, de 7 à 30% au maximum.
Et je le disais, vous avez plein de messages, hein,
oui,
sur l'appli RMC.
Message positif, pour l'instant.
Pour l'instant, oui.
Il y a Gus qui nous dit, par exemple, je travaille avec mes deux enfants et mon grand frère, je suis poissonnier dans les Côtes d'Armor. C'est un vrai bonheur, on l'appellera peut-être Gus. Hein. Et puis il y a Pauline aussi, qui nous dit actuellement, nous avons une entreprise avec mon conjoint, c'est une évidence, nous formons un vrai binôme complémentaire. Et oui, nous pouvons parler autre. Oui, parce que ça, c'est une vraie question.
Oui.
Nous pouvons parler d'autre chose à la maison que de boulot.
Alors, travailler en famille, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Je me tourne vers vous, Thierry Moreau.
J'ai l'impression, comme le disait Rémi, qu'il y a autant de cas de figure que d'entreprises ou de famille. Et donc, voilà. Alors, travailler avec son conjoint, par exemple, je pense que c'est pas facile parce que ça sous-entend d'être quasiment 24 heures sur 24 avec son conjoint.
Donc, il faut beaucoup s'aimer.
Il faut être complémentaire dans ce cas-là. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est un peu plus commercial, l'autre qui est un peu plus chiffrage, gestion, etc.
Il faut surtout accepter de recevoir des ordres de l'autre.
Il faut une certaine. Oui. Alors, oui, quand il y en a un qui
est au-dessus
de l'autre. En revanche, je vais faire une petite parenthèse pour les gens de ma génération ou de mes parents. Beaucoup de cas dans des commerçants, notamment, la femme aidait le mari sans être payé, sans être déclaré, parce que c'était plus simple. Et aujourd'hui, elle se retrouve sans retraite. Aujourd'hui, je pense que ça change, mais je pense à toutes ces femmes qui ont aidé leur conjoint pendant des années et des années et des années et qui se retrouvent aujourd'hui sans rien du tout parce que elles n'étaient pas déclarées et elles aidaient juste leur mari. Et ça, c'était un vrai problème et ça persiste encore dans quelques commerces. Donc, salaire égal, ça c'est important. Après, dans la transmission
Salaire égal, tout dépend du poste, excusez-moi.
Évidemment, à poste égal, oui, bien sûr. Ouais. Quand il y en a un qui est au-dessus de l'autre, il faut accepter effectivement de recevoir des ordres de l'autre. Après, il y a la transmission des entreprises et ça, je trouve super intéressant parce que, en fait, il faut que chacun reste reste à sa place. Il faut que celui, le père qui transmet au fils, il soit dans le partage de l'expérience, mais pas trop paternaliste. Il faut que la personne qui reçoit soit dans l'apprentissage, mais ne doit pas rester le petit qui apprend toute sa vie. Donc, il faut qu'à un moment, celui qui transmet doit s'effacer. Donc, c'est quelque chose d'un dosage très très subtil. Et je pense ça doit être très très compliqué. Moi, ça m'est pas arrivé, mais ça doit être très très compliqué.
Mais il y a embouteillage au standard là. Donc, de toute façon, on aura quelques exemples précis dans un instant dans Estelle Midi. Yael Mellul, vous auriez pu travailler avec quelqu'un de votre famille, vous ?
Ah ben, je l'ai fait. Ça s'est soldé par un divorce. Donc, parce que bon, mélanger
le cabinet d'avocat.
Oui, voilà, le cabinet d'avocat. Voilà, absolument. À l'époque.
Donc, à poste égal.
Pas tout à fait à poste égal. Moi, j'étais un peu au-dessus. Donc, c'est peut-être aussi qui a pas forcément fonctionné. Mais il n'y avait pas que ça non plus. Hein, je vais pas mentir. Mais voilà, pas déconner non plus. Mais je veux dire par là que mélanger déjà le business et l'affect, faut avoir une sacrée dose d'amour, de respect déjà à la base. Je veux dire, s'il n'y a pas ça, on perd les deux, quoi. On perd et le business et la relation familiale. Mais quand ça se passe bien, c'est formidable. Ou alors il faut être très très puissant et très riche comme la famille Arnaud par exemple. Donc là je pense qu'il y a pas de voilà, ça pose pas véritablement de
bon, après je pense que quand vous êtes très très riche, ça peut poser des problèmes parce que tel fils va estimer
le jour où Bernard Arnaud va partir, je sais pas comment ça va se passer.
Ça a été un peu plus compliqué aussi entre la mère et la fille, mais on va dire que enfin moi je suis pas je suis pas très
Mais on vous sent pas assez pour le sujet. Est-ce qu'on arrive Yael Mellul, quand on travaille en couple, est-ce qu'on arrive à parler d'autre chose que de boulot à la maison?
Non.
Ah oui, c'est ça.
En tous les cas, non. Mais en même temps, quand on fait un boulot qui est passionnant, moi, ça me dérange pas de parler de mes engagements H24, quoi. Je veux dire, c'est pas si on peut en plus partager ça avec la personne qu'on aime.
Vous êtes sûr que l'autre est intéressé par votre boulot, alors que si vous faites pas le même boulot et que vous lui parlez de votre boulot.
Ah oui, ça peut être pénible.
Et puis ça fait quand même un petit truc en commun. Laurent Dandrieux, vous dites que c'est l'enfer. Ou le paradis finalement de travailler en famille?
Non, je pense que ça peut être un paradis à condition effectivement de très bien s'entendre et à condition de fixer des règles extrêmement claires, des limites, des limites précises pour que effectivement ça ne vienne pas dévorer la vie familiale stricto sensu. Moi, j'ai des bons amis qui jeunes mariés, alors qu'ils avaient chacun des métiers assez prenants, ont décidé ils avaient peur que le fait de travailler ne leur permette plus de se voir. Et du coup, ils ont démissionné chacun de leur job et ils ont fondé une entreprise dans laquelle ils bossaient tous les deux.
Ouais.
Et ça s'est bien passé, mais avec la difficulté qu'au début, une entreprise, il fallait vraiment bosser beaucoup pour la lancer. Du coup, et je pense que c'était quand même des tensions, mais finalement, ça s'est bien terminé. Mais je pense que faut pas être idéaliste, pas s'imaginer que ça va être tout va être rose.
On est avec Mathieu Poirot, c'est notre invité sur ce débat. Il est psychologue et expert en qualité de vie au travail, coach professionnel. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans Estelle Midi. Mathieu, on se pose la question, travailler en famille, est-ce que c'est l'enfer ou le paradis? Déjà Mathieu, quand on peut faire autrement, est-ce qu'il faut faire autrement?
Alors je dirais que la plupart du temps de mes observations, parce qu'il y a quand même une majorité dans le monde d'entreprises qui sont familiales maintenant.
Ouais, 83%.
Voilà, c'est un point. C'est beaucoup d'entreprises maintenant qui sont familiales. C'est plutôt un paradis qu'un enfer. Après, il y a un certain nombre de précautions, comme ça vient d'être évoqué, à prendre pour que ça puisse fonctionner. Mais pour moi, c'est quand même un système qui est assez ressource et qui aura tendance à se développer de plus en plus.
Mais qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est travailler avec son conjoint, avec ses frères et sœurs, avec ses parents?
Il y a plusieurs formules. L'idée, en fait, déjà, c'est que il faut être très clair sur le fait que c'est deux systèmes qui n'ont pas le même objectif. Tout ce qui est familial, c'est de l'amour inconditionnel. Tout ce qui est professionnel, c'est être efficace. Donc déjà, la question, c'est est-ce que je vais pouvoir m'allier avec une personne qui est efficace aussi au travail? Si on travaille avec sa sœur ou avec son conjoint, mais qu'il y a déjà une difficulté d'efficacité, c'est sûr qu'on va à l'échec. Moi, je conseille toujours d'être déjà vigilant sur ce premier point-là.
Oui,
et puis c'est la configuration.
Et puis c'est quand même plus difficile d'engueuler son conjoint ou son père quand il y a un truc qui est mal fait. C'est-à-dire que quand c'est un salarié lambda, à la limite on peut se disputer, c'est pas gênant. Mais quand il y a les sentiments qui rentrent en compte, c'est plus compliqué, non?
Surtout, on peut s'en séparer. C'est de
son père, c'est compliqué.
On a tout fait, on peut s'en séparer. Si c'est son conjoint, c'est quand même plus compliqué.
Ben c'est
donc
ça.
Effectivement, c'est vraiment le point d'achoppement qu'on observe systématiquement. C'est plutôt, non pas des, parce qu'il peut y avoir des difficultés après d'amour, et on y reviendra, mais 80% des tensions sont plutôt liées à des difficultés d'efficacité, en fait, dans la relation de travail.
Mais là, on se dit, finalement, quand il y a des tensions au travail, ça peut rejaillir sur le couple. Mais quand il y a des tensions dans le couple, est-ce que ça peut rejaillir sur le travail? Imaginez, vous êtes super bien en couple, etc. Puis à un moment, ça se tend, vous divorcez, mais vous avez une société ensemble, vous faites comment?
C'est là où il faut prévoir le fait qu'on puisse se séparer, y compris au niveau du business, hein, parce que à un moment donné, régler ses problèmes de couple dans l'entreprise, surtout s'il y a d'autres salariés, ça pose quand même d'énormes difficultés.
C'est ça.
Donc, il y a tout un travail de conseil à avoir à côté pour pouvoir mettre du tiers dans cette relation et faire en sorte que ça puisse être le plus pacifique possible s'il y a une séparation.
En tout cas, ça mobilise beaucoup nos auditeurs et nos téléspectateurs.
Il y a très nombreux messages. Pierre qui nous écrit par exemple: bonjour, moi je suis ouvrier dans une entreprise familiale. Le père a créé l'entreprise, le fils a repris et la mère a fait la compta. Et honnêtement, je ne regrette pas de travailler pour cette entreprise. Il y a une véritable ambiance familiale. Suis ouvrier, oui, mais la passation de l'entreprise. Et puis, il parle aussi des droits de mutation. Oui. On parlait tout à l'heure en France, qui sont très élevés. En tout cas, c'est très réjouissant de travailler dans ce cadre-là. Il y a une meilleure entente et c'est très bien pour travailler.
Voilà, on a plutôt des messages positifs. On va voir si c'est le cas avec Delphine qui nous appelle d'Olonne-sur-Mer en Vendée. Delphine qui est vigneronne.
Vive
bonjour
la Vendée.
Delphine.
Oui, bonjour. Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Bonjour.
Et merci Delphine d'être avec nous dans Estelle Midi. Alors Delphine, vous travaillez avec votre mari, hein, je crois.
Oui, on travaille en couple.
Oui.
On s'est installé, enfin on a recréé notre domaine, avec une histoire familiale en 2011.
Ok, et donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et est-ce que vous dites que vous avez eu raison?
Avec le recul, oui. Sans aucun regret. Après, c'est pas toujours facile de travailler en couple, chose qu'on n'avait jamais fait avant. Donc on s'est redécouvert, je pense. Et puis, carpe diem, quoi. On y va, on fonce. On fonce à tous les deux. On est complémentaires. Donc important. On essaye de quand il y a des tensions, et on a chacun un rôle sur l'entreprise. Mais ça se passe pas trop mal, ça va.
Mais alors, par exemple Delphine, quand vous vous disputez dans un couple classique, vous disputez le soir et vous dites je m'en fous, je vais au boulot le lendemain, et puis après il y a un peu d'eau qui passe sous les pompes et vous oubliez le soir quand vous rentrez à la maison. Mais vous, comment vous faites? Vous disputez puis après vous prenez la voiture ensemble pour aller au boulot, et ça doit continuer au boulot?
Non. Comme tout les couples. Oui, comme dans tous les couples, il y a des tensions. Donc, l'enfer ou le paradis, il y a des moments où ça peut devenir un petit peu l'enfer. Pas trop, on essaye. Le paradis, oui, parce que après, il faut essayer de scinder les choses. On a aussi une famille, on a des enfants. On essaye d'avoir une vie sociale aussi, donc tout rentre en ligne de compte. Et puis avec un petit peu d'âge que l'on a tous les deux maintenant, on est sur un chemin de vie et notre métier nous emmène beaucoup de passion, beaucoup de rencontres. Alors on essaye d'aller chercher nos richesses dans notre métier. Et puis après, quand c'est tendu entre nous deux, on essaye de régler les choses ensemble. Et puis il y a toujours des solutions, il n'y a jamais de problème.
Eh ben écoutez, bravo, bravo Delphine d'avoir réussi aussi bien votre vie professionnelle et
fréquent dans la vigne, hein, les entreprises familiales.
Exactement, c'est très courant. Tout à fait. Ouais. Et alors, entreprise familiale également du côté de Vincent qui nous appelle de La Baule. Vincent qui est agent immobilier. Et alors, vous, c'est un peu particulier, Vincent, vous gérez votre agence avec votre frère, c'est ça?
Ouais, c'est ça, tout à fait, ouais.
Depuis combien de temps?
D'abord, je voulais vous souhaiter bonjour à tout le monde. À tous.
Oui,
bonjour.
Bonjour, bonjour Vincent.
Bonjour.
Voilà, oui, donc je gère une agence immobilière que j'ai appris, c'est une affaire familiale qu'on a appris en fin 2011. Et donc, ça se passe super bien, on s'est chacun réparti nos tâches, c'est-à-dire que lui, il est plus sur la partie location de vacances et puis moi, plus sur la partie transactionnelle, quoi.
Alors, on sait qu'il y a quand même souvent des bisbilles entre frères et sœurs, parfois des histoires de jalousie, etc. Ouais. Ça n'a jamais été le cas pour vous?
Non. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a été éduqués, formés par notre mère,
ouais,
nos parents, et c'est vrai qu'on a eu cette chance. Ils nous ont transmis des valeurs, une déontologie, et ce qui fait que on a voulu faire perdurer ça.
Mmh.
Et ça s'est très très bien passé, quoi. Et puis depuis, on maintient ça et on essaye de garder ce côté familial et positif et enthousiaste de ce que nos parents nous ont inculqué, mis en place, quoi. Voilà.
Alors ça fait 12 ans que vous travaillez avec votre frère. Est-ce que vous vous imaginez reprendre une agence immobilière seule sans votre frère, justement, ou alors est-ce que le côté familial c'est hyper important pour vous?
L'avantage qu'on a tous les deux, c'est que, alors déjà, quand il y en a un qui part en vacances, il y a l'autre qui est là. Donc ça, c'est oui, le côté plutôt c'est bien. Et puis, par ailleurs, je serais capable, mais après, c'est vrai que sur les décisions, on est super complémentaires, quoi. Et c'est vrai que c'est une force vraiment entre lui et moi. C'est vraiment une vraie force, quoi. C'est on s'appuie l'un et l'autre. Donc sur les décisions, qu'elles soient d'ordre sur l'investissement, sur les employés, sur voilà.
Bravo Vincent, parce que franchement vous avez réussi un joli truc et vous devez faire la fierté de vos parents, parce que voilà, vous avez des enfants qui s'entendent bien.
Heureusement, il y a quelques années, mais j'espère que de toute façon mon père, je sais qu'il est fier de nous et on est très contents, ouais.
Bravo Vincent, et puis merci beaucoup d'avoir appelé au 3216. Mathieu Poirot, est-ce que quand on travaille en famille, il faut fixer les limites dès le départ, en fait?
Je pense que c'est important, effectivement, de fixer le cadre, de faire un peu de la maintenance relationnelle, c'est-à-dire qu'il faut garder quand même du temps aussi pour le couple ou pour des espaces partagés, par exemple, quand c'est entre deux familles, deux frères. C'est important de fixer, effectivement, les règles dès le départ. De mes exemples d'entreprises familiales, j'en fais un peu partout dans le monde.
Ouais.
Le plus important, c'est de faire appel à des conseillers en amont pour pouvoir aider avec un regard tiers qui a de l'expérience sur ces questions-là. C'est vraiment un gage de réussite.
Alors pour l'instant, on n'a eu que les témoignages positifs. Hein. Tout le monde dit que c'est assez formidable. Mais c'était sans compter Mickaël. Mickaël qui est avec nous, qui nous appelle d'Aubervilliers, qui est commercial. Et pour vous, Mickaël, travailler en famille, ça a été l'enfer. Racontez-nous ce qui vous est arrivé.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour.
J'ai intégré l'affaire familiale il y a plus de 8 ans.
Mmh.
Et au moment où je suis arrivé dans l'entreprise, c'était un peu flou, donc ils m'ont demandé d'à peu près de tout faire, A à Z. Et,
vos parents, donc?
Oui, mes parents.
D'accord.
Et donc, plus les années passaient, plus ils me proposaient de faire de plus en plus de travail et d'essayer de développer la société.
Mmh.
Mais par contre, par exemple, niveau rémunération, ça suivait pas. Quand je demandais des certains congés pour partir en vacances, c'était le travail qui primait. Et aussi, également, quand il y a certaines décisions qu'il faut plutôt stratégiques ou plutôt... pour la saison suivante, parfois quand on était en conflit, l'argument final de mes parents c'était c'est nous qui décidons parce c'est nous les boss, ou c'est nous on sait mieux que toi parce qu'on a plus de 30 ans d'expérience et donc
c'est dur.
Ça devient compliqué de continuer dans cette ambiance là.
Mais Mickaël, est-ce que vous pensez que c'est parce que parce que vous êtes le fils de vos parents, en fait, qui vous traitent comme ça, ou ils sont comme ça avec tous les salariés? Est-ce que vous avez un traitement de défaveur, finalement?
En fait, en étant de leur fils, ils me considèrent comme un super employé, c'est-à-dire qu'ils ont confiance en moi, ils peuvent tout me confier en tant que travail, et ils savent que je vais le faire coûte que coûte parce que c'est pour le bien de la société. Le reste ne suit pas forcément, parce que on va dire que je devais normalement à terme on devait discuter sur la reprise de la société. Mais aujourd'hui toutes les décisions importantes c'est toujours eux qui le prennent entre eux. Il n'y a pas de relève vraiment à ce niveau-là. Et j'ai pas l'impression que j'ai l'impression que c'est vraiment je suis l'homme à tout faire, mais sans plus.
Ouais, donc la situation, elle est compliquée. En tout cas, bah, bon courage, hein, Mickaël. Et puis sinon, changez, hein, pas de parents, bien sûr, mais de société. Ce sera peut-être plus simple. Merci, Mickaël, en tout cas, de ce témoignage. Mathieu Poiron, on fait comment pour demander une augmentation à son père ou à sa mère, par exemple?
On peut peut-être négocier ça avec l'héritage, mais... ça peut être défiscalisé en amont, c'est l'avantage. Non, je pense qu'il faut avoir justement pas être dans la confusion avec le système familial, c'est-à-dire qu'on demande comme un employé ou un associé normal par rapport à vraiment le fonctionnement de l'organisation, les mérites, le fait que bah, si on a contribué, c'est normal d'avoir une juste rémunération. Là, dans l'exemple précédent, typiquement, on est dans l'instrumentalisation de l'amour familial pour obtenir un gain. Et ça, c'est vraiment le dysfonctionnement premier des entreprises familiales. On utilise l'amour, en fait, pour pouvoir obtenir de l'autre de manière manipulatoire. Ce qui évite ça, c'est de revenir sur des règles d'organisation classiques qui doivent bien fonctionner au niveau de l'efficacité.
Merci beaucoup Mathieu Poiron, en tout cas d'avoir été avec nous, d'avoir été notre invité sur ce débat. On va terminer avec des messages. Rémi, et le résultat de notre consultation?
Oui, un message. Ben moi, pour l'instant, je n'ai eu que des messages positifs depuis tout à l'heure.
Mais continuez à regarder jusqu'à minuit, on ne sait jamais.
Allez, je vais terminer avec un des derniers messages qui m'arrive. Moi, je travaille avec mon père depuis maintenant 6 ans dans le domaine de l'assurance. Ça se passe très bien, une très bonne ambiance au travail, entreprise de petite taille, et j'apprends énormément de ces 30 ans d'expérience.
La transmission.
Ah oui, la transmission, forcément.
Alors, justement, on va voir si le résultat de notre sondage corrobore les messages que vous avez sur l'application.
Eh bien non, il n'illustre pas du tout, le résultat n'illustre pas du tout l'ensemble des messages. 62% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux estiment que ça serait plutôt un enfer.
Mais c'est tous ceux qui ne travaillent pas avec leur famille.
Voilà, c'est ceux qui ne le vivent pas, en fait. Ils en ont peur.
Allez, dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On va notamment parler de Kylian Mbappé.
Oui, un nouveau record, un de plus.
On vous expliquera ça dans un instant. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
14h31 sur RMC, RMC Story. C'est l'heure à laquelle on vous aide dans Estelle Midi. Voici RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi.
RMC s'engage pour vous.
Avec le grand retour d'Amélie Rosic dans Estelle Midi. Et aujourd'hui, Amélie, vous venez en aide à Pascal, une histoire absolument incroyable.
Oui, il a vécu une petite mésaventure, on va appeler ça comme ça. Voilà. Pascal nous a écrit après avoir entendu sur notre antenne, hein, sur RMC, les résultats records du groupe Stellantis, c'est le propriétaire de Citroën. Ce jour-là, Pascal, il venait d'apprendre que son véhicule utilitaire, commandé 9 mois plus tôt chez Citroën, justement, n'arriverait jamais. Et oui, ce menuisier travaille à son compte et en famille dans le Lot-et-Garonne. Il avait besoin d'un nouveau véhicule pour spécifiquement son activité. En mai dernier, il choisit donc un Citroën Jumper, c'est comme ça que ça s'appelle, un utilitaire, hein, qui lui revient à 35 000 euros après une remise exceptionnelle que faisait Citroën de 10 000 euros. Donc ça vaut le coup. Il saute sur l'occasion, il signe le bon de commande. Livraison prévue initialement pour novembre, puis décembre, puis en fait non, janvier, et puis finalement février, prévient la concession, qui finit par lui annoncer la mauvaise nouvelle, votre commande est annulée.
Le motif officiel est le manque de pièces, on continue quand même à fabriquer des fourgons, je pense, et le concessionnaire me dit qu'ils lui ont annulé aussi d'autres véhicules qui avaient eu de grosses remises comme le nôtre. Il me dit, mais si on va en recommander un autre pour 10 000 euros de plus, ou 9 000 euros de plus.
Vous avez bien entendu. Ouais. Pour le même véhicule,
c'est bien joué. Hein,
en fait, Citroën demande à Pascal 10 000 euros de plus. En gros, de s'asseoir en fait sur la remise dont il avait bénéficié il y a 9 mois, alors qu'il avait bien signé un bon de commande.
Je suis un peu dégoûté parce que on signe un contrat, on s'engage. Moi, quand je m'engage à quelque chose, j'essaye de m'y tenir. C'est facile quand on est une grosse structure par rapport à nous. C'est le pot de fer contre le pot de terre. Quoi. C'est du foutage de gueule, quoi. Puisqu'on a bien négocié, on a eu une bonne remise sur un véhicule, il nous explique que, en fait, non, on en veut toujours plus. Dans tous les cas, il y a des noms de la force.
C'est quand même lunaire, cette histoire. Alors, évidemment, Amélie, vous avez contacté Citroën, ils vous disent quoi?
Alors, l'explication, elle est pas mal. Écoutez bien, le constructeur explique que le modèle acheté par Pascal n'est tout simplement plus produit.
Oui, enfin, ils l'ont pas découvert le vendredi pour
et
le lundi,
oui. Oui. Alors, en fait, notre auditeur aurait passé commande quelques jours seulement avant l'arrêt de la production. Ah, c'est pas de chance.
C'est ballot.
C'est ballot. C'est pas de chance. Vous me direz.
Pas, bien sûr.
Bien sûr. Alors, à Citroën, on nous dit c'est rare, mais ça peut arriver. Alors, normalement, hein, quand même, nous dit-on, évidemment, le client, il est prévenu.
Oui.
Avant. Donc, l'entreprise a reconnu auprès de nous un couac à minima dans la communication entre l'usine et évidemment la concession qui n'était pas au courant et qui a repoussé le délai.
Oui. Enfin, un couac à 10 000 euros, ça fait cher le couac. Est-ce que vous avez pu faire quelque chose quand même?
Bah, justement, grâce à nous, le couac à 10 000 euros coûtera pas 10 000 euros, mais zéro à Pascal. Ah. Et oui, parce que grâce à notre intervention, Citroën a proposé à notre auditeur un nouveau véhicule qui est à peu près proche de celui qui n'est plus produit, vous l'avez compris. Mais surtout, la bonne nouvelle, c'est que le tarif reste le même. La différence sera intégralement prise en charge par Citroën. Et ce n'était pas gagné, puisque cette remise de 10 000 euros dont Pascal a pu bénéficier, eh bien, elle aussi, elle a été arrêtée par Citroën.
Mais en tout cas, vous avez réussi, Amélie.
Eh oui. Une dernière fois pour Pascal. Voilà.
Bravo. Et puis bravo à Pascal qui va pouvoir aller travailler avec son tout nouvel utilitaire. Merci beaucoup, Amélie. Bravo à vous. On parle de quoi demain?
Demain, on va parler d'un sujet assez grave et qui touche de nombreux parents, majoritairement des femmes, les pensions alimentaires non versées.
Ah oui. Mais il paraît que ça va être versé automatiquement, là, bientôt.
À la CAF.
Alors, oui, à peu près automatiquement. Je vous en parlerai demain. Vous allez comprendre que c'est un tout petit peu plus compliqué.
Quand on dit à peu près automatiquement, c'est que ça fonctionne pas du tout.
Oui, voilà, c'est que ça marche pas.
Et voilà, on fera ça demain à l'occasion.
Comme MaPrimeRénov, tu sais.
Ouais, voilà. Ouais, vous allez la toucher à peu près automatiquement.
Ouais, automatiquement.
Merci beaucoup, Amélie. Et puis si vous avez un problème, un souci, vous nous écrivez à l'adresse RMC pour vous, @rmc.fr. Et Amélie Rosic réglera ce problème elle-même avec toutes ses équipes. Surtout, vous n'hésitez pas dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Yael Mellul et Laurent Dandrieu. Et dans cette dernière partie, on vous donne toutes les infos qu'il ne fallait surtout pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et on va commencer, Rémi, les immanquables avec la plainte du jour.
La plainte du jour, plainte que la présidente de la région Île-de-France, la LR Valérie Pécresse, va déposer contre le député LFI Louis Boyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence en cause. Le challenge lancé par l'élu qui a appelé hier les lycéens, ce week-end c'était, les lycéens et étudiants à bloquer leurs établissements avec en prime un concours aux plus belles photos de blocage.
Alors quasiment aucun établissement n'est bloqué aujourd'hui. Laurent Dandrieu, donc est-ce qu'elle est logique cette plainte ou est-ce qu'elle sert à rien?
Alors moi en principe je suis pas tellement pour porter plainte pour tout et n'importe quoi, mais en l'occurrence je trouve que c'est un coup d'arrêt assez bienvenu. C'est assez bien qu'on dise.
Un coup d'arrêt à quoi?
Au fait que l'Assemblée nationale se transforme en un cirque où on dit tout et n'importe quoi, y compris des appels à transgresser la loi. Et donc là, effectivement, c'est ce qui s'est produit. Donc, je pense que c'est très bien qu'on porte ça devant les tribunaux. Surtout, Monsieur Boyard, qui est assez tatillon lui-même vis-à-vis de la protection de sa parole de député. Donc, voilà. Je pense que ça va remettre un peu les choses en place.
Yael Mellul, je vous vois sourire, j'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Laurent.
Non, je suis pas d'accord. Pécresse, je comprends pas très bien ce qu'elle vient. La raison pour laquelle
la région, elle est responsable d'exister, c'est la région.
Absolument, mais je sais pas, elle avait un besoin d'exister, elle avait un besoin qu'on parle d'elle. Là, elle aussi, elle aurait peut-être mieux à faire. L'état des collèges et des lycées en région parisienne, ou même ne serait-ce que les transports en commun.
C'est pas les blocus qui vont les améliorer.
Oui, mais enfin là, en l'occurrence, il se passe pas grand-chose niveau blocus.
Ça, c'est
généralisé. Hein.
C'est-à-dire que le challenge de Fort Boyard fait pchit.
Bah oui, le challenge de Fort Boyard. il s'adapte au. Il a raison quelque part. La preuve, on en parle. On en parle.
Mais voilà. Il a raison de proposer des visites de l'Assemblée nationale en échange d'une photo de
député. Vous présentez ou quoi?
Mais je veux dire les miennes, les conneries, non.
Non, non. Boyard, non.
Non, mais je veux dire. Par là qu'on voilà, il a fait le buzz, il utilise les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui tout passe par ça. C'est TikTok, voilà. Même Macron, il a utilisé TikTok, oui, donc voilà.
Enfin, il n'a pas appelé à faire quelque chose d'illégal. C'est illégal le blocage.
Ça, c'est la défense de Louis Boyard de dire j'utilise les nouveaux médias pour
il
faire
raison,
mon combat et que je suis un député
raison.
Nouvelle génération.
Il a raison,
non,
il utilise
les réseaux sociaux, ça serait de dire je suis en grève, je suis devant mon lycée et je ne rentre pas, mais je ne bloque pas mon lycée. inciter à quelque chose d'illégal, je suis désolé, il peut y avoir un étudiant qui se blesse, il peut y avoir un accident, il peut y avoir des choses graves qui se font. Donc un élu de la nation qui fait la promotion de ça pour mettre en échange, pour transformer ça en jeu sur TikTok, et avec en plus un gain, je rappelle à tous ceux qui veulent visiter l'Assemblée nationale, qui s'inspirent sur le site de l'Assemblée, même s'il n'y a pas de date en ce moment.
Il y avait une députée Renaissance, je crois, j'ai vu ça sur Twitter, qui faisait payer les visites à l'Assemblée nationale. Donc là, sans déconner...
C'est n'importe quoi également, bien sûr. Non, on est d'accord.
Donc bon, ça va quoi.
Non, mais il
donc...
y a des brebis galeuses partout, c'est pas ça que je veux dire. Mais transformer un jeu TikTok avec un gain qui est la visite de l'Assemblée nationale, ça n'est pas au niveau. Au niveau de ce que c'est que.
Mais TikTok n'est pas au niveau du politique.
Mais tu peux utiliser
d'accord
TikTok.
Mais déjà, par définition, TikTok, c'est pas au niveau.
Mais c'est pas vrai. Il y a plein de députés qui utilisent TikTok très bien. Djebari l'a très bien utilisé, par exemple.
Oui, mais c'est, c'est pas. Alors, non, on va dire les choses. Ce n'est pas mon ami.
Oui, mais.
Déjà, ce n'est pas mon ami.
On sent quand même une accointance, excusez-moi.
Pas du tout.
Non mais franchement, là ce que fait Louis Beurre, encore une fois, le blocus, ça veut dire permettre à 2-3 étudiants de bloquer une centaine d'autres qui ont peut-être envie d'aller
aller travailler,
etc. Empêcher d'aller travailler des enseignants parce qu'ils sont pas tous en
grève. Non, attention,
c'est antidémocratique.
Voilà. Je veux dire, les manifs, elles sont votées dans les universités,
ouais, d'accord. Elles sont votées à travers des AG qui sont là très largement manipulées.
Elles sont votées par
les opposants n'ont pas le droit à la parole.
Mais tout de suite,
si t'as fait du syndicalisme, ça se retourne en deux temps, trois mouvements.
Et puis les AG, il y a combien d'étudiants? Il y a des AG avec ça.
J'ai fait que j'ai connu ça, c'est n'importe quoi.
Bon, passons à la proposition du jour.
Allez, la proposition du jour, elle nous vient de l'Assemblée nationale, proposition de loi qui est défendue par Aurore Berger, la patronne du groupe majoritaire. Une proposition de loi qui sera examinée aujourd'hui en fin d'après-midi et qui propose une peine d'inéligibilité, inéligibilité automatique aux auteurs de certaines violences, notamment conjugales ou intrafamiliales.
Ça va dans le bon sens, Thierry Moreau ?
Alors, je pense que ça va tout à fait dans le bon sens. Il faut comprendre que jusque-là, l'inéligibilité d'un élu, elle a été prononcée... c'est le juge qui décidait de cette peine-là et c'était en général réservé à des peines qui étaient... j'allais dire proche du rôle de l'élu, mais en tout cas des gens qui avaient détourné de l'argent d'association, donc où on se dit que son rôle de député pouvait poser problème. Là, on élargit ça à des problèmes familiaux, et je pense que c'est quelque chose qui est pour moi inacceptable, que quelqu'un condamné pour violence intrafamiliale ou conjugale puisse être un représentant de la nation. Et je vais être curieux de savoir, ça devrait être normalement une proposition de loi complètement transpartisane, il devrait y avoir 100% de oui dans le vote de cette proposition de loi. Et j'aimerais savoir si les gens qui ont applaudi Adrien Quatennens lorsqu'il a repris la parole il y a quelques semaines à l'Assemblée vont voter ce projet de loi. Alors, elle n'est pas rétroactive, la loi, donc bien elle s'appliquera de toute façon à Adrien Quatennens. Mais j'aimerais bien savoir si ceux qui ont applaudi Quatennens seront les mêmes qui voteront pour cette proposition de loi.
C'est suffisant pour vous, Laurent André?
Alors, moi, ce que je trouve quand même étonnant, c'est qu'il me semble que le groupe parlementaire auquel appartient Aurore Berger, c'est opposé à une proposition de loi venant du parti d'Édouard Philippe sur les peines minimums, parce que c'était très 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 mal, parce que c'est de l'automaticité. Alors, il y a l'automaticité qui est bonne et l'automaticité qui est mauvaise. J'ai un peu de mal à comprendre. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Thierry. Je pense que l'automaticité, elle est déplacée pour des délits qui n'ont pas de lien direct avec la fonction. Et pourquoi, par exemple, on pourrait... être élu de la nation alors qu'on a fait un abus de bien social dans son entreprise et tout à coup c'est moins choquant. Oui, ça peut être prononcé, mais donc c'est très bien qu'on puisse le prononcer, mais au cas par cas. Mais je trouve cette automaticité pour ce délit-là, je trouve que l'automaticité pour ce délit-là et pas pour les autres, je trouve pas ça logique.
Bah, la grande différence, c'est que là, en l'occurrence, il y a atteinte à la personne. Non pas que les abus de biens sociaux, tous les délits financiers ne soient pas graves, et en tout état de cause, ils peuvent, quand il y a condamnation sur la base de ces infractions, elles peuvent tout à fait être accompagnées d'inéligibilité. Là, on parle de violence conjugale, on parle de violence intrafamiliale, on parle d'atteinte à l'intégrité dans la grande majorité, on va dire, d'une femme. Et en plus, c'est quelque chose que nous autres féministes demandons depuis très longtemps. Je veux dire, ces représentants de la nation, eh ben, ils nous représentent. Ils ont un devoir d'exemplarité. Moi, j'ai pas envie qu'un député à l'Assemblée soit un député condamné pour violence conjugale.
Oui, mais alors, par exemple, il y en avait un qui avait été condamné parce qu'il avait agressé un collègue avec son casque de moto. Alors, ça rentre dans ce truc
le problème que non. Et moi, ce qui me dérange justement dans cette proposition, qui est louable, hein, c'est que ce soit justement Aurore Berger qui l'apporte. Voilà, c'est mon seul.
La proposition est bonne.
La proposition est bonne, mais ça me dérange que ce soit Aurore Berger qui l'apporte. Parce que je ne la trouve pas très crédible sur le sujet des droits des femmes, notamment par rapport à l'affaire, pour ne citer qu'elle, l'affaire Abad, par exemple. Voilà. Donc, alors, on va me dire.
Damien Abad n'est pas dans son groupe.
Il était quand même dans le gouvernement, il était dans son gouvernement, il n'a pas été défendu,
Il n'a pas été condamné, là c'est pour des gens condamnés, Yael Mellul.
Oui, voilà, mais...
Je ne sais pas sur des suspects.
Mais c'est toujours le même problème de ressortir la présomption d'innocence quand on parle de... Mais là, c'est pas ça la présomption d'innocence.
C'est pas s'interdire
de parler d'une affaire qui est en cours d'instruction. D'accord, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai le droit, même si une affaire est en cours d'instruction, j'ai le droit de dire je crois la plaignante.
Oui,
mais la plaignante. Mais j'ai le droit aussi de dire ça me gêne que le mis en cause, parce qu'on n'est même pas mis en examen et pas condamné, ça me gêne que cette personne-là ait des fonctions politiques, gouvernementales, machin. Et ça me gêne que Aurore Berger, qui a pu soutenir ces personnes-là, porte ce projet. Voilà,
Moi, ça me gêne qu'on veuille interdire des fonctions à des personnes sur de simples présomptions.
Oui, mais là, c'est pas des présomptions.
Réponds à l'argument d'Yael.
La justice fera foi. Alors, on dit pas ce qui se passe s'il y a violence conjugale quand c'est les deux. Par exemple, on l'a vu avec la chanteuse Aya Nakamura il y a quelques semaines, il y a eu violence conjugale de la part des deux. Alors qu'est-ce qu'on fait si les deux sont députés, on les vire tous les deux? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais voilà, ça peut poser quand même.
Regardez le texte de la loi précisément.
Quand même. Oui, c'est rare, je suis d'accord avec toi. On va passer tout de suite à l'annonce du jour.
À deux jours de la journée internationale des droits des femmes, la première ministre Elisabeth Borne a annoncé la mise en place d'un remboursement par la sécurité sociale des protections périodiques réutilisables à partir de l'année prochaine. Cela concernera toutes les jeunes femmes de moins de 25 ans. Il suffira de se rendre en pharmacie et ce sera gratuit. Annonce faite hier, parce que la journée internationale des droits des femmes, c'est demain 8 mars.
Moi, je ne comprends pas pourquoi c'est uniquement les protections périodiques réutilisables. C'est-à-dire qu'en fait, nous les femmes, on va devoir... Voilà, être remboursé si ce sont les protections périodiques voulues par le gouvernement ou pas les autres, personnellement, ça ne me va pas. Yael Mellul.
Déjà ça, et puis pourquoi jusqu'à 25 ans je veux dire,
Normalement, à 26 ans, on a encore.
On a encore, voilà, pour un bon bout de temps encore, les femmes ont leurs règles. Mais sinon, ça part encore une fois d'un bon sentiment. Les préservatifs gratuits.
Jusqu'à 25 ans.
Y compris pour les mineurs. Après. Voilà, ils sont bloqués sur 25 ans.
Il y a
peut-être un début d'explication sur le fait que ça soit réutilisable, c'est plus écolo.
Ça, c'est vrai.
Ça correspond aussi à une génération et en particulier les jeunes générations utilisent plus des choses réutilisables que pas réutilisables.
Mais nous, non, et on aimerait pouvoir être remboursé aussi. Qu'on a payé pendant très nombreuses années.
Il n'y a pas
de raison.
C'est une question qu'on se prend pendant 30 ans, à peu près.
Laurent Dandréau, vous avez votre avis sur la question? Non.
Non, parce que j'ai du mal à comprendre la politique de remboursement ou non remboursement, parce qu'un coup, il n'y a plus d'argent, donc on dérembourse des tas de trucs, et puis tout à coup, on s'aperçoit il y a de l'argent, donc on va faire les préservatifs gratuits et les protections féminines gratuites.
La date du jour ou pas?
La date du jour, oui, bien sûr. Ça n'a pas totalement échappé que demain, on était journée des femmes.
C'est pour l'égalité entre les hommes et les femmes.
C'est vrai.
Oui, alors là-dessus, on n'est pas...
Il n'y a pas une égalité pour, l'argent public en fonction de ce que la cause est politiquement correcte.
Et ça tombe le 7 mars, on ne va quand même pas me faire croire que ça tombe comme ça par hasard. C'est de la politique, Thierry. Moi, ça me gêne, en fait.
L'efficacité des selles,
De se servir des femmes et d'une situation...
Si c'est une bonne mesure...
Mais est-ce que c'est une bonne mesure? Ah
ben, ça, c'est un autre problème.
Ah. C'est un peu comme la proposition qui est examinée aujourd'hui aussi.
Il faut qu'on trouve un truc.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour les femmes? On est le 7 mars, la fausse manier.
Parce que
c'est exactement ça.
Moi, personnellement, ça me gêne. On va terminer avec le record du jour.
Kylian Mbappé est devenu hier le premier Français à passer le cap des 100 millions d'abonnés sur Instagram. Il est la seconde personnalité la plus suivie sur le vieux continent en Europe, très loin derrière son idole d'enfance, le Portugais Cristiano Ronaldo. Lui, il compte 552 millions d'abonnés sur Instagram. C'est le second compte le plus suivi sur le réseau social derrière le compte officiel d'Instagram qui compte 609 millions d'abonnés.
Attends, Cristiano Ronaldo a moins d'abonnés qu'Instagram ?
Que le compte officiel d'Instagram. Oui.
Qui s'abonne au compte officiel d'Instagram?
Qui s'abonne au compte officiel d'Instagram?
C'est ça, en fait, c'est très bizarre.
En fait, je pense qu'on est abonné automatiquement à partir du moment où on est sur Instagram.
Oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Non, mais je pense que c'est ça.
Et il a une marge encore, Kylian Mbappé, pour vous, Thierry Moreau, à 100 millions, 600 millions quand même pour Cristiano Ronaldo.
Je pense qu'il va encore progresser parce que d'abord, il est jeune. Et puis, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont un outil à la fois de communication pour ces gens-là et un outil de pression. On voit bien quand, quelquefois, Mbappé passe des messages sur ses réseaux sociaux et Instagram, ça porte, c'est efficace. Donc c'est un outil de soft power en fait, en quelque sorte. Ce qui est rigolo, c'est que le deuxième Français qui a le plus de Instagram derrière, c'est son ami Karim Benzema, ouais, à 67 millions. Ouais. Donc ça c'est plutôt rigolo. Et la première femme, c'est Selena Gomez qui n'en a que 392 millions. Et il y a seulement 36 comptes qui dépassent 100 millions d'abonnés sur Instagram. Seulement 36.
Et la femme la plus.
C'est Selena Gomez.
Je savais qui c'est.
C'est une chanteuse.
Oui, voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle chante?
Elle joue
des actrices aussi. Elle chante des choses, ouais, d'accord.
De la pop.
Chante des chansons.
Vous n'êtes pas dans la cible, Estelle.
Non, mais je
dis-moi d'ailleurs.
Oui, je vous rassure. Thierry. On va tout de suite retrouver Vincent Moscato. C'est l'heure du sport sur RMC, le super Moscato Show. Salut Vincent.
Sur Instagram,
Vincent.
Piqué, piqué, collégramme.
Oui.
Bourré, bourré, ratatam.
Ah, je ne sais pas si Vincent nous entend.
Ben oui, je vous entends, mon la technique. Là.
Bah oui.
Madame Midi, comment elle va, Madame Midi?
Elle va bien, elle va bien.
Eh ben nous,
et monsieur 15h, il va bien?
Oh, ça va très bien. Twickenham. Est-ce que Galtieri doit faire confiance ou même à ce groupe là qui a quand même été un peu en souffrance, qui a quand même subi les foudres des Irlandais? Est-ce qu'il doit leur faire confiance encore?
Vincent, juste la ligne est hyper mauvaise. Je vais vous laisser, Vincent, on va vous laisser avec toute votre équipe pour le super Moscato Show, 15h, 18h. Nous, on se retrouve demain dans Estelle Midi. Midi, 15h. Salut à tous et bonne journée.